La Bible, parfum de scandale. Une émission produite par Radio FM+ et présentée par Babette Soulier-Laporte et Ingrid Pratt.
Bonjour chers auditeurs de Radio FM+, nous voici de retour avec Ingrid. Bonjour Ingrid.
Bonjour Babette.
Donc pasteur de l'EPUMA, l'église protestante unie de Montpellier à l'entour, pour notre émission mensuelle de la Bible, virgule, un parfum de scandale, point d'interrogation.
Ah oui, c'est le point d'interrogation n'est pas inutile.
La ponctuation a son importance, voilà, absolument. Et nous allons toujours continuer dans le genre de sujet que nous affectionnons depuis un petit moment. Extrêmement facile, avec des questions toutes faites. Je pense que Ingrid n'a pas beaucoup à se creuser la tête pour répondre. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du diable.
Bah tiens.
Voilà. En nous fondant sur Luc 4. 1, 13.
Lorsque... La fameuse tentation de Jésus au désert.
Au désert, voilà. Il est tenté par trois fois, bien sûr. Et au bout des 40 jours, hein, je crois. Pas pendant les 40 jours, au bout des 40 jours.
C'est ça.
Je crois.
Voilà. Parce qu'il avait très faim.
Il avait très faim.
Et donc ça compte.
Oui, ça.
Très... Pour le diable, ça compte.
Je pense aussi, oui. Donc, je voudrais faire une petite introduction sur tous les noms du diable, tous ces avatars, en fait, qu'on connaît. Donc, il y a Satan, bien sûr, il y a le diable, il y a Lucifer, il y a Belzébuth. Donc, on a trouvé aussi que c'était Baal, Zébub, c'est le dieu Baal, dit le seigneur des mouches pour les pharisiens, qui apparemment était issu d'un dieu cananéen qui se débarrassait des mouches porteuses de maladies. Là, c'est plutôt un diable sympathique, on va dire.
Voilà,
il y a Bélial aussi, Méphistophélès, qui est un démon du folklore allemand et qui est repris dans le fameux pacte de Faust, bien sûr. Il y a Asmodée, donc qui vient du zoroastrisme en langue persane, c'est le démon de la colère. Donc on voit que c'est la vision du mal et la chose du monde la mieux partagée, on va dire. Azazel, qui est dans la tradition islamique et dans la Bible, c'est aussi le chef des boucs sauvages.
Super.
Voilà. Il y a Béhémoth, qui est une créature de grande taille, qui apparaît dans Job. Voilà. Il y a également comme forme de diabolique le serpent de la Genèse, le dragon, que l'archange Michael, donc... Métaba, Léviathan, donc qui a été repris aussi beaucoup sur le plan littéraire, qui est un animal marin monstrueux. Enfin, ce qui est incroyable, c'est que c'est un esprit qui est invisible. C'est ce qu'en disent la plupart des textes. Et pourtant, il est richement représenté.
Très représenté.
Dans l'iconographie, avec les flammes de l'enfer, les pieds fourchus, etc. Voilà, c'est l'esprit du mal, peut-on dire. C'est la tentation à l'état pur. Alors, ce qui est amusant, c'est que Satan, en fait, n'est cité que trois fois dans l'Ancien Testament, ce qui est très peu.
Oui, sous la forme Satan.
Voilà, STN, donc ça a donné Satan, l'accusateur, l'adversaire. Alors, c'est un membre de l'entourage de Dieu et il est là pour causer la perte de l'homme. C'est un peu le poil à gratter de Dieu, on va dire. Toujours dans cette optique, il y a Lucifer aussi, effectivement, le chef des anges rebelles. Mais ça, je crois que c'est dans le Nouveau Testament plutôt que ça arrive.
Ouais,
voilà. Il me semble que c'est le chef des anges rebelles qui est terrassé par les anges de lumière. Et donc, ça s'est devenu des étoiles qui tombent du ciel, d'où le nom de Lucifer, le porteur de lumière. Voilà. Dans le Nouveau Testament, le diable apparaît 188 fois.
Énorme.
C'est beaucoup, c'est presque 200, comme tu disais. Ouais. Et lui, il est l'ennemi du Christ, plus que de Dieu, bien que, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, on est d'accord. Mais il est l'ennemi du Christ, peut-être parce que, justement, enfin, tu en parleras, c'est une façon de présenter Jésus d'une certaine façon.
Il est venu pour être face à face avec lui, finalement.
Voilà, c'est ça. C'est le duel ultime, c'est celui de Belzébuth, qui est un prince couronné de l'enfer, de Bélial, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, justement, il s'oppose au Christ, et chez les Esséniens, déjà, il y avait ce combat ombre et lumière, voilà. Donc, c'est une polysémie très, très, enfin, énorme.
Hyper intense.
Voilà.
Ouais.
Donc, on va peut-être lire ce texte pour poser les choses.
Juste un préambule
À
ce texte-là. Donc, on est... Donc Jésus vient de passer 40 jours dans le désert. Il a été baptisé. Il est tout seul dans le désert. Il n'y a pas de foule, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de pain. Il faut imaginer, c'est seulement le silence. la faim, oui. parce qu'il n'a pas mangé depuis 40 jours. Et une voix. Et je crois que ce récit-là qu'on va entendre, bah, c'est un des plus dérangeants de l'Évangile.
Oui.
Ça arrive juste après donc, le baptême de Jésus.
Ce qui est paradoxal, à Paris.
Alors que
oui.
Dieu vient juste de lui dire « Tu es mon fils bien-aimé ». Et Jésus est conduit au désert pour être tenté.
Ouais.
C'est un truc horrible. Donc écoutons ce texte. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités et lui dit « Je te donnerai toute autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, « C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps.
Oui. J'ai jusqu'à une autre occasion dans une autre version, mais oui, ouais. Les choses sont claires. Il n'en a pas fini avec lui.
Il n'en a pas fini avec lui.
Voilà, tout à fait. Alors, j'ai un peu trois groupes de questions qui correspondent aux trois tentations, finalement, et à la façon dont on formalise l'apparition du mal dans nos propres vies, bien sûr, hein, puisque le Christ ici est terriblement humain, tout en étant tout à fait divin, bien sûr. Alors, pourquoi, tu l'as dit, pourquoi cette tentation par le diable apparaît-elle juste après le baptême ? Est-ce que justement, le Christ vient d'être baptisé par Jean-Baptiste, il a été, comment dire, vraiment choisi, élu comme fils de Dieu. Est-ce que le mal cherche particulièrement à détourner les humains de Dieu, de ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint ?
Alors, en fait, carrément.
Oui, carrément, oui.
Carrément. Le baptême de Jésus, c'est en fait une affirmation publique de son identité.
Oui.
Où il y a cette
colombe.
Parole qui tombe du ciel. Alors, on ne sait pas qui l'entend, cette parole, en fait. Hein. On ne sait pas si c'est juste Jésus qui l'entend ou si tout le monde l'entend. Enfin, le texte reste quand même très obscur là-dessus. Mm-hmm. Cette parole qui dit... En tout cas, c'est une parole que nous, on lit.
Oui.
Donc, pour nous, c'est très clair, cette parole, on l'entend. Et elle dit, « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je mets toute ma joie. » Et la tentation, elle arrive... immédiatement après.
Ouais.
Je veux dire, il n'y a pas de transition, quoi. C'est comme une mise à l'épreuve de cette parole.
Ouais.
Et le diable commence toujours par cette parole-là. Si tu es le fils de Dieu.
Ouais.
Donc, en fait, il y a cette parole qui a été dite. Tu es mon fils bien-aimé. Et le diable va venir remettre ça en question. Si tu es le fils de Dieu. Donc, ça veut dire que le mal... le diabolos, le diviseur, ne cherche pas tant à créer le mal qu'à faire douter de ce qui a été donné. En fait, c'est hyper pervers, quoi.
Oui, tout à fait.
Et ce qu'on remarque, c'est que dans la Bible, la tentation, elle survient souvent au moment d'un appel, au moment de quelque chose qui s'institue. Par exemple, avec Adam, c'est juste après la création, au moment où il l'installe.
Tout à fait.
Et paf,
le serpent arrive.
Le serpent arrive. Ça arrive aussi pour Israël, après la sortie d'Égypte, pendant les 40 ans dans le désert. Là, il y a des doutes, ils remettent tout en question, il y a quelque chose qui est de l'ordre on doute de ce qui a été. Et puis, donc, il y a Jésus après le baptême. Alors, en fait, quelque part, le texte suggère que plus on est proche de Dieu, plus l'enjeu devient clair. Non pas parce que c'est Dieu qui nous exposerait à quoi que ce soit, mais parce que à partir du moment où la liberté humaine est pleinement engagée, mmh. alors il y a quelque chose qui peut,
oui.
qui peut arriver là.
Qui est de l'ordre du libre-arbitre aussi.
Qui est de l'ordre du libre-arbitre.
On peut choisir donc, le mal.
On peut choisir.
Mmh, bien sûr.
Et on peut choisir.
Mmh, oui,
et donc, on va voir les choix... les choix de Jésus, parce qu'ils éclairent quand même.
Oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant, ça. En fait, c'est moins la création du mal, presque, que la lutte, la démolition du bien, on a l'impression. C'est intéressant. Et alors, est-ce que tu dirais que le diable nous tente d'abord dans notre chair? C'est la première tentation, dans notre corps. Il a, comme tu l'as dit, il n'avait pas mangé depuis 40 jours, c'est beaucoup.
Ça fait ça,
donc, bon, on connaît le côté symbolique du chiffre 40, bien sûr. Est-ce que le diable s'encouvre dans nos failles humaines, justement, dans nos manques quotidiens? Il dit à Jésus, allez, transforme cette pierre en pain. Ouais. Et là,
ta faim,
ça sera parfait.
Bah, mange.
Voilà. C'est quelque chose que Jésus sait faire, saura faire. Voilà.
Ouais, et puis, c'est, je dirais, d'un point de vue anthropologique, c'est hyper lucide. Quoi.
Oui.
Jésus a faim. Et ce qui est intéressant, c'est que le diable ne crée pas la faim. Il l'exploite.
Oui, tout à fait.
Et finalement, on voit que...
Il est opportuniste, en fait.
Complètement. Mmh. La tentation, elle est pas d'abord morale, elle est corporelle, affective.
Oui.
En fait, elle est liée au manque.
Oui, tout à fait.
C'est dire que finalement, le diable, il ne va pas tenter sur quelque chose qui soit irréel, mais sur le réel, le plus banal, finalement. Parce que manger, survivre, être en sécurité, c'est du réel banal. Quoi.
Bien sûr.
C'est ce dont on a vraiment envie. Mais je dirais que là, le vrai piège, c'est pas le pain. C'est de faire de Dieu un moyen au service de ses besoins immédiats.
Oui.
Ça, c'est, voilà. Cette première tentation, elle est quand même assez...
C'est celle à laquelle résiste Job aussi, il ne le fait pas. Voilà. Alors que là aussi, son corps est atteint, on l'avait
physiquement.
Vu. Donc, deuxième groupe de questions, en fait, c'est que comment, voilà, l'homme ne vivra pas seulement de pain, dit le texte. Alors, que fait-on? Est-ce que l'arme contre le diable, qu'on l'appelle le diable, Satan, diabolos,
comme on veut,
le mal, on va dire l'esprit du mal, est-ce que cette arme contre lui, c'est une spiritualité forte et qui serait, par exemple, libérée du matérialisme ou qui va au-delà du matérialisme, enfin, qui serait une métaphysique? Est-ce que la foi nourrit? C'est une grave question.
Ouais, très. Quand Jésus dit, cite cette parole, l'homme ne vivra pas
de pain seulement.
Ça ne veut pas dire qu'il nie le pain.
Non.
Voilà.
D'ailleurs,
c'est une réalité.
Seulement.
Voilà. Pas seulement. Par contre, il refuse que ce soit le seul horizon possible.
Voilà, tout à fait. D'accord.
Donc finalement, la réponse de Jésus, elle ne va pas mépriser le corps, mais juste elle va refuser d'être réduite à ça.
Oui. D'accord.
Je dirais que par rapport à cette expression qu'on dit, la foi c'est l'opium du peuple. Bah non, la foi c'est pas un opium. Je dirais que la foi c'est une désintoxication.
Au contraire,
je dirais,
tout à fait.
Voilà, quand le monde prétend que le sens se réduit à la consommation, finalement la foi elle aide à voir au-delà.
Tout à fait.
À aller un peu plus loin.
Tout à fait.
Voilà, le matériel, c'est nécessaire, mais le spirituel permet de prendre des décisions, je dirais. Voilà.
Les aussi, absolument, bien sûr, bien sûr. Et donc, ça, c'est le côté vis-à-vis du matérialisme, on va dire la force de la spiritualité. Et alors, ce qu'il lui demande aussi, c'est qu'il lui montre, le diable lui montre les royaumes vus depuis le haut de la montagne. Et donc, il lui dit, tu auras le pouvoir et la gloire. C'est le pacte de Faust aussi. Quid de l'hubris humain, quoi.
On est clairement dans le politique. Franchement, là, je dirais, ça nous parle à nous aujourd'hui aussi.
Bien sûr.
En fait, ce que le diable propose, et ça va vous plaire, attention, une efficacité immédiate.
Oui, bien sûr.
C'est la lessive qui lave plus blanc que blanc. Il propose la domination. Il propose des résultats visibles, là, maintenant. Et le tout sans croix, sans patience, sans amour, sans rien.
Sans rien, je veux dire,
comme ça, quoi.
Ouais. Ça m'a fait penser à la Bible de Trump. Tu sais, les Bibles que Trump vend, alors qu'il est croyant comme moi, je suis évêque.
C'est ça,
mais
voilà.
Bon.
c'est vachement intéressant parce que finalement, ça nous dit que le mal n'est pas toujours immoral.
Non. C'est vrai.
Par contre, il peut être très efficace.
Oui, absolument.
Et du coup, c'est vraiment la tentation de l'hubris, parce que c'est croire que la fin justifie les moyens, c'est croire qu'on peut sauver le monde par la domination.
Oui.
Et en fait, Jésus refuse un royaume sans Dieu, ou sans spiritualité, sans pensée, sans
transcendance.
Sans transcendance. Même si d'un point de vue extérieur, c'est un grand succès, quoi.
Oui, bien sûr.
Et ça donne envie. Enfin, je veux dire, c'est hyper tentant.
Tout à fait. On va peut-être faire une toute petite pause pour la musique.
Un jour, le diable vint sur terre. Un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va! Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette, en anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars, venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Après cette vision toute personnelle, mais très intéressante de Jacques Brel sur le diable. Oui, oui, ça va, effectivement. Nous reprenons le cours de l'émission sur le diable dans le cadre de l'émission La Bible parfait de scandale sur Radio FM+. Donc, nous en étions à, je crois, quand même avoir fait une distinction entre, comment dire, ne pas comment, trop moraliser le diable, finalement.
Il ne faut pas le moraliser.
Voilà, voilà.
Ce n'est pas moralisable.
Ça n'est pas moralisable, on est d'accord. On est plutôt dans l'hubris humain, ce qui est tout à fait différent. Alors, j'enlève une série de questions aussi sur le rapport entre Dieu et le diable. Parce que le diable, dans le texte, dit « Cela m'a été donné, j'ai pouvoir sur le monde ». Comme dit Jean, dans 14-30, le diable est le prince de ce monde, qui est une très belle formule. Donc, le pouvoir a été donné au diable. Mais par qui? Voilà, par Dieu. Alors, moi, j'ai lu que c'est le catéchisme catholique, à une certaine époque, a décidé que il y a eu un concile à Braga, et donc le diable a été... C'est un ange qui a fauté, en fait, c'est ça. Mais donc, Dieu lui aurait donné un pouvoir qu'il a mal usé, puis Dieu lui a repris. Enfin, tout ça est assez peu clair pour moi. Et juste, je voulais rajouter que ce béhémoth, là, dont j'ai un peu creusé, en fait, dans Job, il est dans Job, béhémoth, c'est très, très amusant, parce que, enfin, amusant, il symbolise d'abord la toute-puissance de Dieu, Et puis après, il y a des traités de démonologie qui font de lui l'esprit du mal. Ouais. C'est quand même curieux.
C'est hyper confus tout ça.
C'est très confus, voilà.
C'est une des questions les plus complexes, en fait.
D'accord.
En fait, ce qui est très clair, c'est que le diable n'est pas l'égal de Dieu.
Non.
Et pour le coup, la Bible est claire. Donc, Dieu est créateur et le diable est créature. C'est pas la même chose.
Non, voilà. On est d'accord.
Et le Concile de Braga, donc en 561, le dira très clairement aussi, hein, le diable est un ange déchu et ce n'est pas un principe éternel du mal.
Voilà.
Voilà. Pourquoi a-t-il du pouvoir ? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. tout simplement parce que Dieu crée des êtres libres et que la liberté implique la possibilité du refus. Je dirais que le pouvoir du diable, il est basé sur le réel.
Oui.
Mais il est limité, il est temporaire, parce qu'il est toujours dans la souveraineté ultime de Dieu, je crois. Et d'ailleurs, dans Job, c'est intéressant ça, c'est que Satan agit avec permission.
Oui, c'est vrai.
Et jamais dans une autonomie absolue.
Non.
Et pourquoi le diable règne sur le monde ? Ben, il règne sur le monde dans la mesure où le monde se détourne de Dieu.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on a l'impression que ça n'a... Enfin, vu de notre point de vue maintenant, que ça n'a pas de fin.
Oui, c'est sans fin.
C'est sans fin. Moi, j'ai trouvé dans Corinthiens, donc c'était vraiment à l'époque la lettre aux Corinthiens, donc c'était quand même... c'est bien enraciné dans l'histoire, on va dire. Il écrit « le Dieu de ce siècle ».
Oui.
Eh ben, le Dieu de tous les siècles depuis, dirait-on.
Oui.
Enfin,
mais il est là depuis toujours. Et en fait, Jésus ne va pas arrêter d'être confronté à ça.
Oui. En revanche, il peut donner l'autre bout de l'alternative, c'est-à-dire choisir. C'est peut-être ça l'idée, c'est que comme Dieu s'incarne dans une figure humaine, c'est peut-être plus facile de pouvoir adhérer à ce que dit une figure humaine que parce que le diable s'immisce bien dans le dans le monde, c'est ce que dit un peu Brel.
Il est bien là. Il est bien là. Et moi, il y a des tas de gens qui me disent tu crois au diable, toi ? Alors, je crois pas au diable personnifié.
Non.
Le diable est une métaphore pour dire plein de choses, en fait. Hein.
C'est pas le diable de Luther qui croyait qu'il était derrière son poêle, dans son bureau.
Et lui,
et il lui jetait des trucs.
Des amandes. Ça n'a rien à voir, mais finalement, à chaque fois qu'on ne résiste pas, je dirais qu'il est là, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait. Peut-être pas dans toute tablette de chocolat, quand
Non, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à manger, quand même.
Oui, tout à fait. Mais je comprends. Et alors, il y a aussi, dans ce texte, l'idée qu'on ne doit pas mettre Dieu à l'épreuve.
Ouais.
Alors, pourquoi, en fait ? Ça veut dire que le bien vient de Dieu, le mal vient du diable, et donc, on ne peut pas dire à Dieu, « Ah ben écoute, toi, tu es le prince du bien, tu es le roi du bien, l'empereur, le je ne sais quoi. » Donc, vas-y, quoi. Sois plus fort. C'est ce que demande ce qu'on avait dit, je crois, la dernière fois, sur les malandrins qui sont sur les croix avec le Christ, qui disent, mais allez, vas-y, fais-le, quoi. Donc, et après, donc, si le bien vient de Dieu, le mal vient du diable,
tout ça
absolument pas personnifié, on est d'accord. Pourquoi est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre, quoi ? Est-ce qu'on choisit le mal ? Est-ce que les grands criminels, par exemple, on dit toujours de toute façon, ils avaient le mal en eux, ils sont le mal incarné.
Ce qu'on dit.
Et oui, c'est ce qu'on dit, voilà.
Ouais. La troisième tentation, clairement, elle est religieuse, quoi.
Voilà.
Et ce qui est terrible, c'est que le diable cite l'Écriture. Donc, ça veut dire que le diable
peut être
biblique, il peut être orthodoxe et il peut être très pieux.
Ah oui. Et oui.
Et là, ça casse tout. Quand on met Dieu à l'épreuve, quand on demande des signes, quand on conditionne la foi à une preuve, prouve-moi que t'existes. Quand on transforme Dieu en garant de nos projets, c'est nul, quoi. Enfin, on tombe dans le chantage spirituel, alors que, a priori, la foi biblique, c'est d'abord la confiance.
Tout à fait.
Le diable ne crée pas le mal, il le propose. Il est là pour tenter.
Il le vend bien, d'ailleurs.
Il le vend très bien. Ce n'est pas un créateur. C'est juste... Ouais, c'est un commercial, quoi.
Oui.
Et finalement, le mal, il est là quand il y a une liberté qui se ferme, qu'il y a une relation qui est rompue, quand l'autre devient un simple objet. Lucifer, il choisit, enfin Lucifer, le diable, on l'appelle comme on veut, hein, il choisit pas le mal comme une substance, mais il se pose lui-même à la place de Dieu.
Oui, c'est ça. D'où tous ces cultes sataniques, etc. Où là, quand même, parce que c'est pas la même chose. Le mal dans les grands criminels, l'esprit du mal, Et sinon, après toutes ces pratiques qui veulent faire de Satan un dieu.
Ouais.
Ce qui pose quand même, et apparemment, c'est des choses qui sont très développées à notre époque, qui tentent des gens. Ça fait un peu mal au cœur, on se dit,
mal au cœur, mais c'est l'attrait de la facilité, quoi.
Oui, aussi.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et puis, il faut être sûr d'une chose, c'est que le mal ne disparaît pas.
Alors, c'est ma dernière question, justement. Voilà, tu me précèdes. Est-ce que le mal pourra être un jour vaincu? Parce que, alors, je ne sais plus exactement quel était ton texte. Moi, le mien, c'était « Il se retira de lui jusqu'à une autre occasion ».
Oui.
Et toi, c'était « Pour le moment ». Pour le moment,
Un truc comme ça. Là, pour le moment, il fout la paix, mais pas plus, quoi.
Ouais.
Le mal ne disparaît pas. Il est déjà vaincu en principe.
Oui.
Dans ce texte, en tout cas, Jésus a déjà gagné,
oui.
Mais la victoire, elle n'est pas spectaculaire, quoi.
Non.
À ce moment-là, tu bois, d'accord. La victoire finale, je crois qu'elle passe par la croix, elle passe par la confiance, et puis elle passe par l'amour non violent, quoi.
Oui. Et par le fait que, normalement, il devrait y avoir de plus en plus de gens qui répondent à l'appel et qui aiment leur prochain, qui ne soient pas dans le conflit.
Mais ce qu'il faut c'est vraiment se mettre dans la tête, c'est que, je crois ça, c'est que le mal, il agit là où il trouve une prise.
Oui.
Et ce qui est sûr, c'est qu'en Jésus, il n'en a pas trouvé.
Oui, non, c'est sûr.
Et peut-être que le combat spirituel d'aujourd'hui, ce n'est pas de supprimer le mal.
Oui.
Mais de refuser qu'il ait la dernière parole.
Oui, c'est ça.
Voilà.
De continuer à se battre, même en dépit d'eux. Parce que, justement, tu as soulevé cette question. Hein, c'est effectivement de tous nos amis qui ne sont pas du tout croyants. Ils voient un obstacle majeur à la foi. Le fait que Dieu ne soit pas tout-puissant.
Tout-puissant, omnipotent.
Voilà. On en avait déjà parlé, effectivement, de ça. Mais en fait, Dieu, c'est un choix aussi.
C'est un choix.
C'est un choix de...
C'est la liberté qui est toujours posée en premier.
Oui.
Et notre libre arbitre. Et
surtout pour nous, les protestants,
complètement.
C'est effectivement
Notre choix, il est plus vite posé sur des choses qui la tentation, c'est d'aller vite, quoi.
Ben oui, c'est plus facile. Surtout maintenant.
L'immédiateté. Ouais. Et alors, dans le monde dans lequel on vit, l'immédiateté, on sait ce que c'est. et donc, on a envie que ça aille de plus en plus vite. Et donc, forcément, alors que c'est pas ça, dirais, l'amour, la confiance, ça prend du temps, quoi.
Oui. Voilà. Donc, en fait, le diable, ce serait la vitesse, presque.
Presque, ouais. En tout cas, on reste libre.
Oui,
voilà.
C'est ça.
On reste libre.
C'est l'important. Ça sera le mot de la fin,
Mot de la fin, ça serait le même que la dernière fois, c'est choisis la vie.
Choisis la vie et la liberté.
Et la liberté.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et donc, rendez-vous pour de nouvelles aventures le mois prochain, toujours sur Radio FM+, et toujours pour la Bible, un parfum de scandale, point d'interrogation.
Yep.
C'était La Bible Parfum de Scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.